J'ai choisi deux passages, l'un dans Matthieu 22, versets 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Deuxième passage que vous reconnaîtrez sans peine. Évangile de Luc, versets 30 à 37. C'est toujours un docteur de la loi qui interroge Jésus. Et qui est mon prochain ? Puisque Jésus lui avait rappelé ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous entre les pages ouvertes de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps, et de notre monde. 613 égale 10 égale 2 égale 1. Extraordinaire arithmétique de l'Évangile. On passerait ainsi des 613 commandements de la Torah aux 10 paroles, et puis enfin à 2 commandements, aimer Dieu et son prochain, qui sont déclarés, sinon égaux, au moins semblables. L'Évangile enseignerait donc la plus simple des religions. Elle peut se révéler cependant bien difficile à comprendre et à pratiquer si on ne cherche pas, justement, d'abord, à bien comprendre. Donc je commencerai par faire ce que, justement, Jésus ne fait pas. Commencer dialectiquement par le négatif, ou ce qui me semble négatif. Ce qui me semblerait, de mon point de vue, non pas l'interprétation que l'on fait habituellement, sans doute, mais la pire interprétation de la parabole dite du bon samaritain. Il y a le bien, secourir. Il y a le mal, passer son chemin. Et puis, le bon, les brutes, si j'ose dire, et les truands. Le bon et le samaritain. Les brutes sont les hommes du temple sans compassion. Et puis les brigands, bien sûr. Quant au prochain, il serait tout homme blessé rencontré sur mon chemin. Quand on s'en tient là et qu'on conclut qu'il faut choisir le bien et fuir le mal et qu'il faudrait secourir quiconque blessé, croisé sur mon chemin, on trouve cela très beau, mais irréalisable, car il y a tant de blessés que l'on rencontre sur son chemin. Et on se dépêche d'oublier cette histoire. Ou alors, on prétend aimer son prochain comme soi-même, mais comme on n'y arrive pas vraiment, on s'installe dans une sorte d'hypocrisie et de culpabilité. Il en résulte une haine de soi qui rend justement l'amour du prochain comme soi-même irréalisable. Et les athées ont raison de penser qu'ils font aussi bien, sinon mieux, que ceux qui se prétendent chrétiens. Alors on peut chercher à comprendre ce commandement de bien des manières, en se demandant si l'amour peut être un commandement, s'il s'agit d'un impératif ou s'il s'agit d'une promesse pour le futur. Toutes ces approches sont évidemment très intéressantes et doivent être menées par ailleurs. Mais ce qui retient ou doit retenir, me semble-t-il, notre attention, c'est que Jésus choisit de nous éclairer par une parabole, et il choisit de nous éclairer en s'intéressant à une question précise, à savoir, qui est mon prochain ? La réponse, elle est très claire, c'est que mon prochain est celui qui s'est rendu proche, comme le Samaritain l'a fait, de l'homme blessé. Et Jésus, de le montrer en exemple, et de nous enjoindre de faire de même. Donc la première signification de la parabole est de se souvenir de ceux qui, dans notre vie, ont été présents à des moments décisifs et nous ont en quelque sorte sauvés. Réfléchissez un petit peu, c'est nécessairement arrivé 2, 3 ou 4 fois dans votre vie. Moi, ça m'est arrivé. C'est déjà beaucoup. Et la psychologie humaine fait qu'on en veut parfois à ceux qui nous ont aidés, car ils ont été témoins de notre faiblesse. Et ensuite,
Ensuite, aider ceux que l'on rencontre, si on le peut. Mais s'il s'agit de faire de même que le Samaritain, comment agit-il ? Il est efficace. Il fait tout ce qu'il convient de faire pour remettre le blessé dans la vie. Et il s'en va sans même probablement que le blessé ait eu le temps de le reconnaître. Car il a autre chose à faire. Voilà un homme qui donne de son temps et de son énergie, mais qui vit sa vie. C'est un commerçant, un homme de relation, certains diront, qu'il a sauvé un futur client. Magnifique bon sens. Mais qu'est-ce qu'un Samaritain ? C'est une sorte de juif marginal qui conteste la centralité et la sacralité du temple de Jérusalem. Jésus ne dit pas de mal des deux hommes de religion. Ils sont tenus par un code de pureté, vous le savez, qui les empêche de toucher un blessé, a fortiori un mort, ce qu'ils croient peut-être, car ils ne s'approchent pas, justement, de cet homme. Peut-être que le blessé est un Samaritain, ce qui les éloigne encore plus. Peut-être est-il juif, ce qui signifie cette fois que le Samaritain transgresse son propre code, car les exclus pratiquent aussi l'exclusion. Voyez Luc 9, 52-53. Les disciples de Jésus ne sont pas reçus parce qu'ils sont juifs, et ils ne sont pas reçus dans un village de Samaritains. Pas d'anticléricalisme primaire de la part de Jésus, mais certainement de l'ironie, au sens étymologique de ce mot, de sa part vis-à-vis de la religion. Jésus littéralement met la religion en question, comme Socrate ne cessait de mettre en question ses concitoyens à Athènes. La religion est un ordre symbolique et sacré, consubstantiel à la société. Les sociétés athées ont produit parmi les pires systèmes religieux qui soient. On n'a pas le choix entre une société qui serait religieuse et une société qui ne le serait pas. Nous n'avons que le choix entre des religions insupportables et des religions qui désigne un infini qui les dépasse. L'Évangile, lui, traverse les codes inévitables. Celui qui est montré en exemple ne suit pas une compréhension familiale ou clanique de la fraternité. Mais aimer son prochain, que ce soit celui qui m'a sauvé ou celui que j'essaye de sauver, nous situe bien loin des spécialistes de la misère du monde, qui généralement n'arrangent rien à la misère du monde et se montrent souvent incapables d'une simple fraternité ponctuelle. Cela ne signifie pas que les chrétiens doivent se replier dans la sphère privée. L'Église a besoin d'hommes et de femmes lucides, actifs et combatifs, et qui ne confondent pas les bons sentiments avec la nécessité du travail intellectuel et de la capacité à prendre des responsabilités. Mais ces responsabilités, ils doivent les assumer en tant qu'êtres humains et en tant que citoyens, où ils devront défendre à la fois les droits humains fondamentaux et une plus juste redistribution des richesses. La démocratie semble faire des progrès aujourd'hui dans le monde, mais vous le savez bien, rien n'est joué. Et quant à nous, gardons-nous bien de croire que la démocratie est acquise pour toujours. L'enseignement de l'histoire, c'est qu'elle est tragique. Nous devons nous tenir prêts pour la résistance à l'oppression. Les églises doivent être des centres d'entraînement spirituel, moral et intellectuel pour se préparer à résister. Et tôt ou tard, les temps durs finissent par arriver. Pour ce qui concerne l'amour du prochain, il faut s'appliquer à cette contagion de proche en proche, au mépris des clivages sociaux, sexuels, culturels, ethniques et religieux. Alors, comment synthétiser tout cela ? Bien compris, l'amour du prochain comme soi-même est praticable. Le christianisme n'est pas impossible. C'est une éthique du possible, justement, de la relation que l'on peut poursuivre à l'infini, et non l'exigence d'une absolue sainteté immédiate qui ne peut produire que du malheur. Dans cette éthique du possible, qui est constituée de l'humanité concrète à laquelle nous avons affaire, il y a peut-être, 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, mais l'humanité concrète à laquelle nous avons tous affaire, c'est une centaine de personnes tout au plus, dans la famille, dans la vie associative, les amis, les collègues, mais ça ne fait pas grand monde. Nous avons tous aujourd'hui des téléphones portables. Si vous avez beaucoup de relations, vous avez plusieurs centaines de numéros enregistrés, ou au contraire 20 ou 30. Faites cette petite expérience. Faites défiler les numéros de téléphone avec les noms à côté. Et interrogez-vous sur la qualité humaine, amicale et fraternelle des relations que vous avez avec ces gens concrets. Le résultat n'est pas formidable. Ah oui, ce super bon copain, oh, on est fâché à mort. Ah, oh, ce très bon ami, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Voilà, ce n'est pas formidable. Donc il y a un formidable boulot à accomplir pour chacun d'entre nous. Plutôt que de se spécialiser pour des tas de questions auxquelles généralement on ne comprend rien et avec lesquelles on n'a aucune relation concrète. Et je pense que quand on s'interroge toujours sur la question de savoir comment est-ce que Dieu peut être présent dans nos vies, je pense que très concrètement, je vous le propose, je ne dis pas que je le fais et que je le fais bien. Nous sommes à la mi-février 2011. Imaginez que pendant un an, jusqu'à la mi-février 2012, vous appliquiez la règle suivante. Vous interrogez sur les personnes qui vous ont sauvé, qui vous ont tiré d'affaire à un moment décisif de votre vie. Et ces gens-là, il faut que vous en souveniez. Vous avez une dette vis-à-vis d'eux. Il faut que vous les aimiez comme vous-même, ces gens-là. Quant aux autres, la centaine de personnes que vous voyez concrètement dans votre vie, non pas 7 milliards, une centaine, pensez aux petits gestes. Surtout, ne vous sacrifiez pas. Si vous rencontrez quelqu'un qui veut se sacrifier pour vous, partez en courant. Mais pensez aux petits gestes qui, pour l'autre, seront peut-être absolument décisif. Enfin, nous comprenons que si le fait d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même sont deux actes profondément semblables, C'est parce que le Dieu des chrétiens est compris comme celui qui se rend proche de chacun et permet ainsi de l'aimer en retour, ainsi que ceux que nous rencontrons. Dieu n'est sans doute pas la seule voie spirituelle. Et la relation chrétienne à Dieu n'est pas non plus la seule possible. En se rendant proche par Jésus le Christ, Dieu nous permet tous de devenir des Christs, mais des petits Christs, en apprentissage en quelque sorte. Si nous reconnaissons Jésus, cet homme qui a vécu sur la terre, dans notre histoire, au temps de Ponce Pilate, qui a connu la vie corporelle, la joie de vivre, mais aussi le sang, la sueur et les larmes. Si nous reconnaissons cet homme comme étant le Christ, c'est justement parce qu'il n'épuise pas, il ne bloque pas la christicité de Dieu. C'est justement parce qu'il répand sur le monde et sur les autres l'onction et la bénédiction divine. Jésus est le Christ parce qu'il conduit la christicité comme un métal conduit la chaleur ou l'électricité. Il ne la garde pas pour lui, justement. Avant de laisser la parole à notre cher Jean-Dominique et à la musique, je formulerai trois vœux ou trois prières. Puissions-nous nous laisser approcher par le Dieu de Jésus-Christ. Puissions-nous progresser, chacun à son propre rythme et sur son propre chemin, mais inlassablement. Puissions-nous, enfin, être souvent capables de la saine, simple et robuste bonté de notre prochain, de notre ami, le Samaritain.